Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens en ce vendredi, presque la mi-septembre, 14 septembre aujourd'hui. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Lendemain de débat, il en sera largement question dans tous les journaux ce matin, alors je vous en reparlerai un peu plus tard. Mais d'abord, bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Est-ce que le débat vous a fait veiller, malgré que ça s'est pas terminé très tard? Ça a commencé à 20h, ça s'est terminé vers
22h15.
Ouais, j'ai pas trop regardé ma montre.
Mais j'ai participé dans un autre média, j'ai participé à un débat. Je faisais la mise en onde, donc pas un débat, mais un compte-rendu du débat.
Ah oui?
De 22h30 à 23h30.
D'accord, l'après-débat, les commentaires.
Donc, il paraît que M. Lisée s'en est bien tiré. C'est ce que j'ai retenu.
Mais c'est sûr qu'il était d'attaque et c'est ce qui en est sorti, mais on n'a pas fait de gagnant. En tout cas, d'après ce que j'ai lu, on parle de match nul.
Mais à la toute fin, j'ai entendu juste la fin, là, les 15 dernières minutes. Mais à la toute fin, il disait, tout le monde a parlé de manière égale, sauf vous, Mme Massette. C'est normal, je suis une femme.
Oui, puis...
Parce que non, j'ai pas aimé ça.
L'animateur Patrice Roy disait...
rien à voir.
Non, je suis pas d'accord du tout avec ce commentaire-là, parce qu'elle avait du temps pour s'exprimer. Mm-hmm. Et puis elle a pris le temps qu'elle l'a pris, c'est tout, là. Oui, il ne faut pas non plus faire des cas de genre. Mm-hmm. Alors, allez-y avec les éphémérides.
14 septembre. En 1535, à son deuxième voyage au Canada, Jacques Cartier arrive à Stadacona, qui aujourd'hui est Québec. En 1812, l'armée de Napoléon entre dans Moscou, qu'incendie les Russes en fuite. Au bout d'un mois, face au froid et à la disette, elle battra en retraite. En 1867, Auguste Renault, député de Kent, est le premier Acadien élu à Ottawa. 1939, à Long Island, l'ingénieur Igor Sigorski fait voler le premier hélicoptère, oui, pratique. 1959, le satellite soviétique Luna 2 est le premier engin humain à atteindre la Lune. En 1975, au musée Rembrandt d'Amsterdam, la ronde de nuit est tailladée par un déséquilibré. Un peu poche. En 1990, Ottawa donne son aval à l'exploitation du pétrole du site Hibernia au large de Terre-Neuve. 1993, l'ancien premier ministre Robert Bourassa qui nous annonce son départ de la politique. 1994, pour la première fois depuis 1904, la saison de baseball prend fin sans série mondiale à cause du conflit entre propriétaires et joueurs. Et c'est l'année que possiblement les Expos de Montréal à l'époque auraient pu gagner cette fameuse Coupe mondiale. Mais bon, des choses qui arrivent. 2008, la série télévisée québécoise Les Lavigueurs, La Vraie Vie rafle 9 prix au Gala Gémeaux, au Gala des Prix Gémeaux, gala qui aura lieu d'ailleurs ce week-end. Et ça a même commencé, les galas hors d'onde, tout ça, là, vous pourrez voir ça.
Oui, oui, hier, il y en avait une soirée.
Oui, et samedi aussi, dimanche en direct à la télé. 2008, la plus vaste opération de secours de l'histoire du Texas est lancée après le passage de l'ouragan Ike, pour secourir quelques 140 000 sinistrés qui ont ignoré les ordres d'évacuation. 2013, les membres des Hells Angels, des Hells Angels, René Charlebois, s'évade de l'établissement de la montée Saint-François à Laval. On va le retrouver mort le 26 septembre à Sainte-Anne-de-Sorel. On souligne une naissance d'un compositeur italien, Luigi Cherubini, qui naît en 1760. Quelques décès, le baryton québécois Robert Savoie, cofondateur de l'Opéra de Montréal. Il était né en 1927, il nous quitte en 2007. En 1996, Mme Rose Alma Ouellette dit Lapoune nous quittait. Elle était née quand même en 1903, donc elle est morte à l'âge quand même vénérable de 93 ans. Et la princesse Grace de Bonaco, née Kelly, elle nous quittait en 1982. Ça fait cette tournée du 14 septembre 2018, j'en perds des bouts.
Ouais. Merci. La Alors, à la une de la presse, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le lendemain de débat, et ça paraît un peu dans ma voix, un peu fatiguée. Legault attaqué, Lisée fonce. La collision attendue entre François Legault et Philippe Couillard sur le thème de l'immigration s'est bel et bien produite hier soir au débat des chefs, tandis que Jean-François Lisée est passé à l'offensive. Un débat animé au cours duquel aucun coup fatal n'a été porté. L'analyse de Denis Lessard, Legault s'en sort sans trébucher. Soirée, débat, tonique, tonique, écrit T-O-N-I-C, et politique de la presse, une discussion décontractée, ludique. Et aussi la chronique de Stéphanie Grandmont, le fisc ramène Guy la liberté sur Terre, une cotisation d'environ 18 millions découlant de son voyage dans l'espace, attend le fondateur du Cirque du Soleil. Élection provinciale, Denis Lessard. Legault s'en sort sans trébucher. Au centre des tirs croisés de ses adversaires, François Legault a obtenu le débat sans faux pas dont il avait besoin pour protéger son avance sur la route qui mène aux élections du 1er octobre. Mais clairement, le chef péquiste Jean-François Lisée a été hier le plus efficace dans ses attaques, écrit M. Lessard. Avec le bilan de son gouvernement à défendre, un peu entravé par son rôle de premier ministre, Philippe Couillard a souvent frappé son adversaire caquiste, sans vraiment le déstabiliser cependant. On peut penser que sa performance, bien que sans dérapage, ne suffira pas à convaincre des indécis d'appuyer le PLQ. Nettement plus pugnace, Lisée partait avec un handicap, des attentes élevées. Maintes fois, il a piqué le chef caquiste, l'accusant par exemple d'avoir pondu son engagement sur les urgences sur un bout de table en prenant sa douche. Nouveau coup quand il a reproché à Legault de conserver les revenus des médecins ontariens comme balise. Pourquoi s'aligner sur l'Ontario? Ce n'est pas Doug Ford qui va décider comment on paye les médecins, a décoché Lisée, après que le caquiste lui a demandé sur quelle planète il vivait. M. Legault était visiblement fébrile, plus nerveux que ses adversaires, compulsant ses notes quand il avait l'impression de ne pas être dans le champ de la caméra. Plus agité, avec des gestes un peu saccadés qui venaient contredire l'image du premier ministre posée qu'il se devait de dégager. Il faut dire qu'il a été sur la sellette toute la soirée. Le chef libéral a paru condescendant à la toute fin du débat, proposant à Manon Massé de lui expliquer les raisons du régime de la gestion de l'offre en agriculture. À plusieurs reprises, les échanges sont devenus cacophoniques. Jean-François Lisée, surtout, continuait d'intervenir pendant la réponse de son interlocuteur. « On a compris », a même laissé tomber le modérateur Patrice Roy pour couper le sifflet au chef péquiste. Le ton a clairement monté entre messieurs Legault et Couillard sur la question de l'immigration. La caricature d'aujourd'hui, évidemment, c'est en lien avec le débat qui compare, donc c'est André-Philippe Côté qui compare le débat d'hier à une partie de hockey. Il y a des gens qui suivent le débat, sauf un qui dort. Ils sont devant la télé, d'où on entend « Legault bloque la réplique de Couillard, Lisée saisit le retour et s'avance ». Mais oh là là, quelle mise en échec de Manon Massé. Legault rate un lancer frappé, on se dirige vers un match nul. L'ouragan Florence s'est abattu vendredi matin sur la côte atlantique américaine, amenant des pluies diluviennes poussées par des vents violents risquant de provoquer des inondations catastrophiques selon les autorités. L'ouragan Florence a touché terre près de Rice Beach en Caroline du Nord à 7h15 avec des vents maximum estimés à 100 km à l'heure, a annoncé le Centre national des ouragans dans un tweet. L'impact de l'ouragan a été précédé par des vents violents tourbillonnants qui ont commencé à souffler peu après 5 heures, projetant des trombes d'eau dans tous les sens et faisant s'envoler débris et panneaux de signalisation. La ville portuaire de Wilmington, en Caroline du Nord, s'était réveillée au son de plusieurs détonations, possiblement de transformateurs électriques ayant explosé, selon un journaliste de l'AFP sur place. L'ouragan reste dangereux, même s'il a été rétrogradé en catégorie 1 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui en compte 5, avertit le Centre national des ouragans. Québec enquêtera sur l'Amazon de la marijuana, une soirée promotionnelle pour une entreprise canadienne de cannabis qui tente de contourner le monopole de la Société québécoise du cannabis lors de laquelle des infirmières sexy recrutaient mercredi soir des clients dans le cadre d'un spectacle du rappeur Snoop Dogg à Montréal, a provoqué le déclenchement d'une enquête au ministère de la Santé et des Services sociaux. Namasté Technologies, qui ambitionne de devenir l'Amazon de la marijuana, ne cache pas son intention d'éliminer toutes les frontières qui empêcheront les consommateurs québécois d'acheter leur cannabis ailleurs qu'à la Société québécoise du cannabis à partir du 17 octobre. Son modèle d'affaires consiste à recruter des clients en leur obtenant une ordonnance de cannabis médical de complaisance lors d'une entrevue de télémédecine sur Skype avec une infirmière praticienne de l'Ontario. On peut vous obtenir une ordonnance médicale en 10 minutes à travers notre application disponible sur l'App Store, et ainsi éliminer toutes les frontières qui empêchent d'acheter les produits que vous voulez n'importe où au Canada. Nous pouvons même vous obtenir une ordonnance de cannabis médical ce soir même, a affirmé le PDG de Namasté, Sean Dollinger. Lors de l'événement tenu mercredi dans un bar de Griffintown, une dizaine de jeunes femmes vêtues d'uniformes d'infirmières sexy faisaient remplir des formulaires en ligne aux clients potentiels pour accélérer le processus. D'autres femmes en sous-vêtements enduites de body painting faisaient la promotion d'un injecteur de cannabis sous-cutané, permettant de consommer de l'huile de marijuana par injection. Ce produit n'est pas officiellement approuvé au Canada. Des vaporisateurs de cannabis, du papier à rouler à l'effigie d'une entreprise de livraison de potes à domicile et des aigres noirs à cannabis à l'effigie de Namasté ont été distribués en contravention de plusieurs articles des lois québécoises et canadiennes qui interdisent formellement la promotion de produits de cannabis récréatif. La description de l'événement par la presse a fait carrément bondir la direction de la Société des alcools du Québec, qui est responsable de la future Société québécoise du cannabis. « C'est une situation exaspérante que nous jugeons tout à fait inacceptable. Il y a un seul vendeur de cannabis possible au Québec, et c'est la SQDC. » Il n'y a pas de zone grise et ce sera tolérance zéro, a affirmé la porte-parole Linda Bouchard, dénonçant au passage le vieux marketing utilisé par Namasté avec ses infirmières. Une série d'explosions de gaz a blessé au moins 10 personnes et déclenché des incendies dans au moins 39 maisons dans trois petites villes au nord de Boston. L'ensemble du secteur a été évacué tandis que les pompiers cherchaient à éteindre les flammes et à fermer les réseaux gaziers et électriques afin d'éviter des dégâts encore plus importants. La police d'État du Massachusetts a exhorté hier après-midi les clients de Columbia Gas à Lawrence, Andover et North Andover à quitter leurs maisons. La décision a provoqué des embouteillages et créé de la confusion. Les autorités cherchent toujours à comprendre ce qui s'est passé.
Par tes bonheurs ensoleillés, par ma terre. M'enterrer, où vont tes eaux ensommeillées, aux bois mères, je l'ai goûté Paris, je suis ridé Paris, je suis Londres. La nuit, je suis l'ombre. Je trouverai un abri où m'enfuirai à Londres, je t'oublierai Paris, me souviendrai de l'ombre, de mes sens interdits, et sur tes ponts, Paris, t'es je t'aime. Bonheur ensoleillé, Paris ma terre m'a enterré.
Oh, on vient d'entendre la formation Palatine, Paris l'ombre.
À la une du Devoir d'aujourd'hui, évidemment, on parle du débat des performances moyennes. C'est Michel David qui donne des notes au chef de parti, évidemment. Il n'y a pas de A, il y a 3B et 1C. Je vais y revenir. Les chefs jouent du coude. Alors, on a une photo. Ils sont tous sourires. Je ne sais pas si c'est avant ou après. Donc, on voit Jean-François Lisée, Manon Massé, François Legault, Philippe Couillard qui ont croisé le fer jeudi à l'occasion du premier débat des chefs. Mais ils ont l'air relax. J'imagine que c'est après. Les interventions des citoyens au premier débat des chefs ont permis de mesurer un certain scepticisme d'une partie de la population. Aussi, quand la lumière renaît, on parle cinéma, Sébastien Pilote et Karel Tremblay ont ouvert le Festival de cinéma de la Ville de Québec jeudi avec le film La disparition des Lucioles. La chronique de José Blanchette, En as-tu vraiment besoin? On a déjà entendu ça quelque part. Ou La décroissance pour les nuls. Et culture dansée sur un tas de cailloux, les chorégraphies urbaines de Teddy Taffel. Alors donc, le bulletin de Michel David, les attentes envers Jean-François Lisée, réputé le meilleur débatteur, étaient élevées. Il a été le plus actif. Il s'est présenté au débat dans la même situation que François Legault en 2014 et il a réagi de la même façon, se portant à l'offensive d'entrée de jeu. Qu'il s'agisse de la situation dans les CHSLD, des urgences ou de la rémunération des médecins, ses attaques contre le gouvernement Couillard ont été les plus incisives. De toute évidence, il courtisait davantage les électeurs de Québec solidaire que ceux de la CAQ, mais sa performance n'a pas été suffisamment éclatante pour modifier le cours de la campagne. Michel David lui accorde un B. François Legault avait manifestement décidé de jouer de prudence et de ressembler davantage à un premier ministre qu'à un chef de l'opposition. Même si la CAQ est en tête dans les sondages, il n'a pas été suffisamment attaqué pour se sentir obligé de modifier sa stratégie. C'est seulement quand la question de l'immigration est arrivée sur le tapis qu'il s'est hérissé. Personne ne l'a asticoté sur ses projets de construction de nouveaux barrages au moment où Hydro-Québec ne sait plus quoi faire de ses surplus. Entendre ses explications sur les changements qu'il propose au mode de rémunération des médecins, on pouvait comprendre pourquoi le premier ministre le qualifie régulièrement de « brouillon ». Et il accorde un B à François Legault. je parle toujours du chroniqueur Michel David dans Le Devoir. Comme cela était prévisible, Philippe Couillard a été attaqué d'entrée de jeu sur les coupes du début de mandat en éducation et la hausse de rémunération que son gouvernement a consentie, mais il n'a pas été déstabilisé. Peut-être aurait-il pu marquer des points si le débat sur l'immigration avait duré plus longtemps. Il ne peut pas être satisfait de ce match nul. B. Et puis finalement, c'est Manon Massé qui reçoit un C. Manon Massé avait bien compris qu'elle n'avait pas intérêt à participer à un combat de coq, mais elle a parfois eu du mal à se faire entendre quand le débat versait dans une cacophonie toute masculine. Quelques bonnes lignes sans plus. Stéphane Bonhomme, un enquêteur suspecté d'être un des complices du député Guy Ouellette dans l'affaire des fuites dans les médias, aurait été prévenu par un collègue des perquisitions qui se préparaient, ce qui expliquerait la destruction accidentelle de son téléphone cellulaire. M. Bonhomme, policier de la Sûreté du Québec qui travaille au service des enquêtes sur la corruption, fait partie des quatre personnes visées par l'enquête de l'Unité permanente anticorruption dans le dossier des fuites médiatiques. Une semaine jour pour jour après le décès de Lise Payette, la Fédération des femmes du Québec, FFQ, est sortie de son mutisme en expliquant pourquoi elle était restée coite jusque-là. Un silence qui a laissé bien des militantes pour les droits des femmes incrédules. Dans un billet publié mercredi soir sur sa page Facebook, la FFQ indique s'être tenue en retrait de la pluie d'hommages pour laisser chaque membre associatif et chaque membre individuel s'exprimer à leur manière sur la mort de Mme Payette. Sans nier nos divergences, nous reconnaissons qu'elle est une figure importante de l'histoire du Québec, peut-on lire dans la missive qui rend un hommage mitigé à Mme Payette. Diane Guilbeault, présidente de l'Organisation pour les droits des femmes du Québec, PDF Québec, évoque sans conteste un faux pas de la part de la FFQ. C'est très décevant pour toutes les femmes du Québec, s'indigne-t-elle en entrevue au Devoir. À ses yeux, la majorité des femmes reconnaissent l'apport exceptionnel de Lise Payette à l'avancement de leurs droits. Diane Guilbeault convient que Lise Payette a trébuché par moments, mais quand on ne fait rien dans la vie, on ne fait pas d'erreur, nuance-t-elle. Connaissez-vous le Valsartan? Le 9 juillet dernier, Santé Canada diffusait le rappel de plusieurs médicaments contenant du Valsartan prescrit aux patients souffrant d'hypertension, d'insuffisance cardiaque ou qui viennent de subir un infarctus du myocarde parce que celui-ci, produit par une compagnie chinoise, était contaminé. Une substance classée comme cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, on peut lire sous la plume de Pauline Gravel qu'à la suite du rappel de plusieurs médicaments contenant du Valsartan, le 9 juillet dernier, seuls les patients couverts par le régime public sont assurés de recevoir un remboursement ou un crédit pour les comprimés qu'ils n'ont pas consommés et qu'ils retournent à leur pharmacien. La Régie de l'assurance maladie du Québec a décidé exceptionnellement de rembourser les comprimés de Valsartan que ses assurés n'ont pas absorbés. Mais rien n'oblige les assureurs privés à suivre cette procédure adoptée par la RAMQ. Le candidat d'extrême droite à la présidentielle, Jair Bolsonaro, poignardé à l'abdomen il y a une semaine, a été placé de nouveau jeudi en unité de soins intensifs après avoir été réopéré d'urgence, a annoncé l'hôpital de Sao Paulo, où il est traité. La durée de l'hospitalisation du candidat, fixée à une dizaine de jours après l'attentat, devrait être nettement prolongée après ces dernières complications qui auront un impact sur sa capacité à mener campagne. D'après les derniers sondages publiés en début de semaine, M. Bolsonaro est crédité de 24 à 26 des voix, largement devant son premier poursuivant, Ciro Gomes, 11 à 13. Il serait toutefois battu dans quasiment tous les scénarios au second tour du 28 octobre. Après, alors il y a une longue lettre dans la section éditoriale Opinion de François Marcotte et je vous invite à être à l'écoute la semaine prochaine à mon émission de lundi qui dure une demi-heure de plus, donc jusqu'à midi, où je vous lirai ce texte « Avoir moins de 65 ans dans un CHSLD et briser le mur de l'indifférence ». Et M. Marcotte termine sa lettre en écrivant et je cite, « J'invite donc les partis politiques à s'inspirer de la démarche de Lab École, une initiative visant à créer des écoles modèles du 21e siècle à l'architecture innovante, aux espaces intérieurs conviviaux, et à faire de même avec les centres d'hébergement. Non seulement il faut ériger de nouveaux murs, mais il faut faire tomber la discrimination envers les résidents les plus jeunes, victimes de la banalisation de leurs besoins. » Monsieur Marcotte a 45 ans. Il est lourdement handicapé et il vit dans un CHSLD depuis 2015. Il a découvert en arrivant au Québec qu'on offrait aux résidents des CHSLD qu'un seul bain par semaine, une pratique inacceptable et intolérable à ses yeux. Oui, vous avez raison, Maurice Marcotte, c'est Québécois. Il écrit et je relis. J'ai découvert en arrivant ici, il parlait du CHSLD qu'au Québec, on offrait aux résidents qu'un seul bain par semaine. Merci d'écouter Le Quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce vendredi du mois de septembre qui ressemble à l'été qui est encore en cours jusqu'à la semaine prochaine. Maurice est très heureux. Il aime la chaleur et nous l'a déjà dit en ondes et hors d'ondes. Et l'automne arrive le 22 septembre. Restez avec nous.
Je m'en vais au hasard, je garde tous mes rêves, je m'égare tout entier sur un long chemin sans trêve, poursuivi d'un passé qui se voudrait le mien, emporté par les vents, il n'en reste plus rien. Ya ba 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 bye 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 bye, la nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Sur cette route infinie, en rêvant je voyage. Dans des lieux sans amour, je pose mes bagages. Dans cette ville qui m'accueille, ce sont mes derniers pas. Et je cherche le repos, mais ne le trouve pas. Ya ba 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 bye 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 bye. La nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye. Qui me couvrent de leur voile. Ya ba 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 bye 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 bye. J'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye. Tu n'es pas seul au monde. Il ne reste qu'un hier et demain a disparu. Tant d'espoir m'abandonne et je ne rêve plus. le jour où la moisson fleurira le désert, je pourrai retrouver mon soleil et la mer. Ya ba 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 bye 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 bye, j'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye, tu n'es pas seul au monde. Bye 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 bye, la nuit je vois les étoiles. Ya ba 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 bye 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 bye, qui me couvrent de leurs voiles. Ya ba 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 bye 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 bye, j'entends une voix à la ronde. Ya ba 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 bye 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 bye, tu n'es pas seul au monde.
Tu n'es pas seul au monde, Enrico Macias.
En une du Journal de Montréal, le fisc refuse les dépenses de l'espace de Guy Laliberté, cotisation d'impôts astronomique. Et aussi débat des chefs, évidemment, l'immigration fait toujours des flamèches. Le verdict de notre panel, avantage Legault et Lisée. Les notes des chroniqueurs Mario Dumont, José Legault, Rémi Nadeau, Lise Ravary, Jonathan Trudeau, Claude Villeneuve, moyenne totale. Alors pour Philippe Couillard, 68,33%, Manon Massé, 66,67%, François Legault et Jean-François Lisée, ex-éco, 75%. Le milliardaire Guy Laliberté a tenté de ne pas payer d'impôts sur les 41,8 millions qu'a coûté son voyage dans l'espace en 2009, estimant qu'il s'agissait d'une dépense d'affaires. Un juge vient de le faire redescendre sur Terre. L'épopée de 12 jours en apesanteur du célèbre fondateur du Cirque du Soleil il y a presque une décennie avait été largement médiatisée. Guy Laliberté s'était envolé vers la Station spatiale internationale pour une mission sociale et poétique, visant à sensibiliser le public aux enjeux de protection de l'eau. Un événement planétaire vidéo en direct avait même été organisé en collaboration avec des vedettes comme Bono, Shakira, au moment où le richissime homme d'affaires était dans l'espace. Guy Laliberté a d'abord payé pour son voyage via un holding personnel. Mais deux mois après son retour sur le plancher des vaches, il s'est fait rembourser par Création Méandre, la compagnie qui contrôlait le Cirque du Soleil. Il venait donc de toucher un avantage financier très important de l'ordre de 41,8 millions de dollars. Pour justifier cette manœuvre, ses comptables ont fait valoir que son périple dans les étoiles n'était pas un voyage personnel, mais plutôt un stunt publicitaire destiné à mousser la popularité du cirque. Revenu Canada a contesté cette comptabilité créative et exigé que Guy Laliberté paye l'impôt dû. Le fisc vient d'obtenir gain de cause dans une décision du juge Patrick Boyle datée du 12 septembre dont notre bureau d'enquête a obtenu copie. Il y a une différence entre un voyage d'affaires et un voyage personnel. Je considère que ce voyage dans l'espace entre dans la deuxième catégorie, écrit le magistrat de la Cour canadienne de l'impôt. Selon l'avocat fiscaliste Nicolas Simard, la loi oblige Guy Laliberté à payer immédiatement au fisc son dû d'environ 20 millions de dollars, même s'il tente d'en appeler du verdict. Selon lui, l'histoire de Guy Laliberté est un bon rappel pour tous les contribuables. Si votre entreprise paye vos dépenses, assurez-vous que ce sont bel et bien des dépenses d'affaires. Si le gouvernement se rend compte que c'est un bénéfice personnel, ils vont vous envoyer un avis de cotisation, prévint-il. Au moment de mettre sous presse, Guy Laliberté n'avait pas répondu à notre invitation pour émettre des commentaires. Un étudiant de 13 ans de l'école secondaire des Sources de l'Art des Ormeaux dans l'ouest de l'île de Montréal a été arrêté pour avoir proféré des menaces contre l'établissement scolaire sur les réseaux sociaux. Des élèves avaient informé des membres de la direction mercredi qu'un ou des étudiants faisaient des menaces directes envers l'école sur le réseau social Instagram. La direction a communiqué avec le service de police de la ville de Montréal et une enquête a immédiatement été ouverte, a indiqué l'agent Benoît Boissel, porte-parole du SPVM. Le recours au cellulaire sur la route semble répandu puisque 79 % des Canadiens affirment avoir vu régulièrement des conducteurs utiliser au volant l'utiliser ce téléphone, selon un sondage de Desjardins dévoilé hier. Au Québec, 35 % des personnes interrogées disent avoir déjà été distraites par leur cellulaire en conduisant, dont 20 % au cours de la dernière année. Par ailleurs, 5 % des conducteurs québécois admettent utiliser régulièrement leur téléphone au volant. Parmi eux, 35 % l'utilisent principalement pour les applications GPS. Le cellulaire au volant est un problème encore plus marqué chez les jeunes. À l'échelle nationale, 11 % des conducteurs âgés de 16 à 24 ans admettent conduire en l'utilisant fréquemment. Cela constitue plus du double de la moyenne nationale qui est de 5 % Pour 82 % des Québécois, les autres sources de distraction sont l'environnement externe, 50 % les passagers ou les enfants, 37 % et les changements des réglages du système de divertissement du véhicule, 66 %. Partout au Canada, la majorité des répondants ont estimé que la distraction au volant est le deuxième facteur de risque en importance lorsqu'ils prennent la route. La conduite avec faculté affaiblie par l'alcool est, selon eux, le plus grand péril qui les guette. La demande d'injonction d'un étudiant atteint du syndrome d'Asperger pour réintégrer le cégep qu'il a expulsé a été rejetée par un juge hier. Ça m'encourage quand même à me battre pour mes droits et ceux de toutes les personnes autistes ou Asperger. Mon combat n'est pas terminé, a affirmé Éric Boisvert. Le Journal de Montréal racontait récemment l'histoire de cet homme de 43 ans qui estimait que son renvoi du cégep régional de la Naudière à Joliette dans le programme de technologie des procédés de la qualité des aliments, était injustifié. Hier, le juge Pierre Labelle a estimé que le critère d'urgence n'était pas suffisant pour accorder l'injonction qui lui permettrait de retourner sur les bancs d'école, a expliqué l'avocat de M. Boisvert, Stéphane Anger. Il ajoute qu'un avis d'appel a été formulé mercredi soir pour qu'un comité interne du cégep révise la décision du renvoi. Et sniff, sniff pour plusieurs, puisque Volkswagen a annoncé hier qu'elle cessera définitivement la production de sa mythique coccinelle en 2019 avec deux ultimes modèles pour célébrer le riche héritage d'une voiture qui a marqué l'histoire de l'automobile. Les premières coccinelles sont sorties des chaînes de montage il y a près de 70 ans. Les toutes dernières seront produites en juillet à l'usine mexicaine de Puebla. Alors, on regardera de nouveau le film Un amour de coccinelle avec des mouchoirs. We'll be right back.
La formation Pink Martini nous chantait Pata Pata.
Un grand classique de Myriam Makaba. Je ne sais pas si c'est elle qui l'a composé, je ne pense pas, mais qui l'a rendu célèbre, ça c'est sûr et certain. Une autre belle version ici. Alors, allons-y avec la portion des journaux canadiens, puisqu'on est le vendredi. Je vous lis des articles tirés de journaux canadiens francophones. Donc, le courrier de la Nouvelle-Écosse. Gestion du stress, des trucs de santé mentale pour les étudiants de niveau post-secondaire. Taylor, une étudiante universitaire de troisième année, s'est exprimée elle-même avec une image publiée sur une brique du site Big White Wall, une ressource en ligne sur la santé mentale. L'image montre une paire d'yeux, chacun ayant un point de vue différent. L'un exprime la douleur et la tristesse, l'autre semble plus fort parce qu'il ne veut pas sembler faible, affirme Taylor. Cela montre comment une personne peut essayer de sembler normale tout en masquant la tristesse à l'intérieur. Composée avec un trouble d'apprentissage et se sentir rejetée par ses pairs, ses enseignants et le système scolaire avait été une lutte incessante. Maintenant, l'anxiété et la dépression avaient un effet encore plus grand sur Taylor, en plus des pressions et des attentes supplémentaires qui caractérisent l'expérience d'études postsecondaires. Des choses telles que les attentes en matière de rendement, le fait d'être loin de la maison pour la première fois, et l'autonomie accrue exigent une adaptation. Une certaine quantité de stress est normale, mais lorsqu'il nuit à la vie quotidienne, il est important de prendre des mesures. Voici donc quelques conseils pour aider à garder la vie scolaire gérable. Viser un équilibre lorsqu'il s'agit de l'étude, de l'apport alimentaire, de l'exercice et du sommeil. Prendre une pause et changer le rythme. Cherchez la compagnie d'autrui. faire attention à l'utilisation excessive des médias sociaux, ne pas être trop exigeant avec vous-même, chercher du soutien quand vous en avez besoin, envisager une ressource comme Big White Wall auquel vous pouvez accéder de façon anonyme lorsque vous avez besoin de soutien immédiat. Grâce au financement du gouvernement, Big White Wall est un service anonyme gratuit offert à tous les résidents de l'Ontario, y compris les étudiants, par l'entremise de l'Ontario Telemedicine Network sans aucune orientation nécessaire. Les utilisateurs peuvent établir des liens avec d'autres par rapport à des sujets ou des défis précis. Le site offre du clavardage de soutien de pair modéré par des conseillers, ainsi que des cours de soutien guidés sur des sujets comme la dépression, l'anxiété, la gestion du poids et l'abandon du tabac. Il offre également l'occasion d'afficher des sentiments à l'aide d'images, de dessins et de mots. « Big White Wall m'a aidé à surmonter ma dépression à l'école et au travail », affirme Taylor. « Ça a été un grand exutoire qui m'a aidé à exprimer toutes mes émotions. » Alors, vous pouvez trouver plus amples renseignements à bigwhitewall.ca. Un article de Richard Landry, une importante collection sur la Nouvelle-France est disparue dans les flammes. Weymouth. Un incendie impressionnant a détruit deux édifices à Weymouth après que le feu ait pris après 4 heures du matin le mercredi 29 août. L'ancienne bibliothèque qui logeait une importante collection d'articles historiques se rapportant à la Nouvelle-France ainsi que l'édifice de l'ancien Weymouth Trading Post où l'incendie aurait commencé ont été complètement rasés. Les édifices avoisinants, dont l'hôtel Goodwin, ont aussi été grandement endommagés. Rodrigue Lefort, président du comité de Weymouth Waterfront, est attristé de constater la disparition des articles historiques. Il y avait un bureau dans l'édifice avec un ordinateur depuis un an. L'historien Hal Theriault de Digby, ou Digby, venait sur place sur rendez-vous pour accueillir les gens intéressés à la recherche sur l'histoire et les articles historiques de la Nouvelle-France. L'incendie a tout fait disparaître. Les objets perdus comprennent des anciens outils, vêtements, cartes géographiques, lettres écrites du temps de la Nouvelle-France, une collection de médailles militaires très rares de la famille Stirling, des fusils, des peintures, d'autres vêtements militaires, de la vaisselle, des lampes, une canne appartenant à l'ancien Stirling, une collection de poèmes, ainsi que surtout beaucoup de documents historiques, dont un manuscrit d'un prochain nouveau livre sur la Nouvelle-France. Il y a un autre groupe, la Electric City Nouvelle-France Society, qui est aussi à l'œuvre pour préserver l'histoire de la Nouvelle-France. Ce qui nous encourage, déclare Rodrigue Lefort, c'est que l'an passé, nous avons embauché une étudiante pendant l'été et celle-ci a tout catalogué les articles du centre de recherche et photographié tous les documents. On a réussi à sauvegarder ça. Aussi, nous avions fait une estimation des articles reçus de la famille de Paul Stirling, donc nous avons une valeur de ces articles. Il y avait aussi d'autres articles offerts par le public. Il est difficile de donner une valeur aux articles perdus, a noté le président du comité de Weymouth Waterfront. Il y avait également des appartements, deux à l'étage et deux au rez-de-chaussée. Nous sommes chanceux que personne ne se soit blessé, a-t-il dit. Michel Doucette, qui était sur place, a réussi à réveiller tous les gens qui logeaient dans les deux édifices. L'autre édifice, un ancien magasin d'articles variés et une ancienne entreprise de soudure du plastique qui était louée jusqu'alors comme magasin d'antiquités, a aussi été détruit par les flammes. Et l'édifice appartenait à Randy Sabine qui le louait. Les édifices des deux côtés ont été épargnés grâce aux efforts de 9 brigades de pompiers venus au secours. Alors les deux édifices voisines des édifices qui ont été brûlés. et les édifices en face, l'hôtel Goodwin et l'édifice en briques appartenant à Mazel Musical Arts Society, ont été beaucoup endommagés également avec du revêtement fondu et des fenêtres brisées. Le personnel et les clients de l'hôtel ont dû être évacués. Alors, beaucoup de dommages, beaucoup d'histoires disparues, mais au moins pas d'êtres humains morts. Nouvelle radio franco-albertaine, Radio Cité, bientôt sur les ondes. Le vide de près de 70 ans sans radio francophone communautaire à Edmonton est en passe d'être comblé. La Société de la radio communautaire du Grand Edmonton Society, association à but non lucratif instigatrice du projet, a annoncé le 15 août à la rotonde de la Cité francophone le lancement de Radio Cité à compter de septembre. C'est dans un journal de Edmonton. Sur le site lefranco.ab.c. La station CFED 97,9 FM émettra dans Edmonton et sa banlieue et sera aussi disponible sur le web afin de rejoindre les auditeurs partout dans la province. Le message lancé lors de la conférence à la Cité francophone est clair. Ça s'en vient vite, annonce Carole Saint-Cyr, directrice générale de la station. Il faut que les gens sachent que la radio est en onde. Il faut que le message passe pour qu'il y ait un maximum de francophones, pour que la radio fasse partie de leur vie et aussi qu'ils y participent. On a donc des nouveaux collègues. Radio Cité se place sous le signe de l'inclusion avant tout. L'objectif est d'attirer toutes les communautés d'expression française, qu'elles soient québécoises, acadiennes, africaines, européennes ou franco-albertaines, évoque Carole Saint-Cyr. La radio diffusera des émissions de 6h à 18h. L'émission matinale sera confiée à Claude Vallière, animateur et directeur musical, tandis que l'émission de fin de journée sera animée par Fernand Bienvenu-Hacquet, directeur de la programmation. Et tous les jours à midi, un point d'actualité sera offert aux auditeurs avec la journaliste Estelle Duro-Ménard, épaulée par son confrère Vincent Tremblay. D'ici 2 ans, on prévoit la production d'environ 90 heures d'émissions locales, précise la responsable. C'est grâce à un appui majeur du gouvernement du Canada que ce projet se réalise, dit la société propriétaire de Radio Cité. L'ambition est à la hauteur du besoin pour Carole Saint-Cyr. Ça comble une très grande absence des médias pour l'Ouest canadien francophone. C'est pourquoi je suis dans le projet depuis 2008. Edmonton était jusqu'à présent l'une des seules villes du Canada sans radio francophone communautaire. Radio Cité sera ainsi mise à la disposition des organismes entrepreneurs, artistes et membres de la communauté, certifie la direction. La communauté est d'ailleurs appelée à prêter main forte dans l'animation et la programmation de la radio. En plus d'un noyau de 5 professionnels à temps plein et de 2 ou 3 contractuels, plusieurs bénévoles rejoindront l'équipe et proposeront leur propre création après 18 heures. Par ailleurs, des émissions produites par l'Alliance des radios communautaires du Canada et Radio France Internationale, 2 partenaires du projet, seront diffusées. Alors, bon succès à Radio Cité. Une nouvelle radio très attendue, donc à compter de septembre, ce mois-ci. Et quand je vous parlais de l'incendie qui avait lieu dans 2 édifices à Weymouth, j'ai oublié de préciser que c'était en Nouvelle-Écosse et que l'article était tiré de Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. Thank you. Merci d'écouter Canal M, la radio de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne et restez des nôtres. Dans la portion culturelle, il y aura un bon moment accordé à Pauline Julien qui aurait eu 90 ans cette année. Il y a un documentaire réalisé par sa petite fille qui prend l'affiche très bientôt. Je vous en reparle. On va écouter aussi Pauline Julien.
Le plafond me tombe en mille miettes sur les épaules et sur la tête. Le concierge m'a dit, moi, y voir, m'allait le dire au propriétaire. Fait trop longtemps que je me fie sur ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. La poignée de porte nous reste des mains à 2h30 du matin. Faut faire attention quand on sort, si on dort. C'est plein de petites affaires comme ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le varathane s'est détaché, on a trop mis d'ammoniac, ça sert à rien de laver le plancher, la poussière esprit dans les crânes. J'ai de l'air mal propre à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. C'est bien trop grand, un 8,5, depuis qu'il y a des enfants de partie. Quand on a des pièces à rien faire, on vient qu'on se sent étrangère. Puis y a toute l'huile qu'on brûle pour ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le stéréo de la gang d'en haut est toujours ouvert au coton. Plus il est tard, plus c'est écho. S'enterre ma télévision. Plus ça joue fort, plus ils aiment ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Ils ont démoli de l'autre bord de la rue pour faire un bloc appartement. C'était plein d'arbres, il en reste plus. Sont morts étouffés dans le ciment. Sa bouche l'a vu à part de sang. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Le voisin faisait des colères quand mes deux chats, à l'occasion, creusaient des trous dans son parterre. Il leur donnait des coups de bâton. Ils prennent plus l'air à cause de ça. Je sais pas si je vais déménager ou rester là. Mais on a trois grands lavabos et des choses si grands comme la porte. Mais on est voisins du métro. Bon, ça va bien quand il faut qu'on sorte. Mais on paye pas pour la taxe d'eau, seulement l'hydro puis le téléphone. Mais le chauffage fait pas défaut, tous les calorifères fonctionnent. Mais on a beaucoup trop d'affaires pour s'en aller dans un cocon. Mais l'été, j'aime ça, prendre l'air, tranquille, tout seul sur mon balcon. Peut-être qu'ailleurs, j'aimerais moins ça. Je sais pas si je veux déménager.
On vient d'entendre Pauline Julien, déménager ou rester là.
Et justement, on se souvient de Pauline Julien sur plusieurs tribunes et il y a un article signé Marie Bernier aujourd'hui dans la presse. 20 ans après la mort de la passionnariat de la chanson québécoise Pauline Julien et à quelques jours de la sortie du documentaire Pauline Julien, intime et politique, la collègue Marie Bernier donc nous parle de sa grand-mère. Je n'ai pas son regard fauve ni sa chevelure rougeoyante, je n'ai pas sa voix non plus, et je ne sais pas encore si j'ai hérité d'un peu de son audace, celle avec laquelle, dans la jeune vingtaine, elle est entrée sans invitation dans le bureau de Maurice Duplessis, alors premier ministre, pour solliciter une bourse afin d'étudier l'art dramatique à Paris. Il a accepté. « Pauline Julien est ma grand-mère », écrit Marie Bernier. Je l'écris au présent malgré sa mort il y a 20 ans. Car lorsqu'on laisse tant de traces, de chansons, d'écrits, on ne cesse pas tout à fait de vivre. Et si l'écho de sa voix était ténu dans les dernières années avec cet anniversaire et les différents hommages qui lui sont rendus pour l'occasion, il résonne particulièrement ces temps-ci. Je n'ai pas connu la Pauline que l'on célèbre aujourd'hui, celle qui brûle les planches et la Pauline passionnariat de tous les combats. Cette Pauline, je l'ai rencontrée dans les vidéos d'archives et les témoignages, évidemment, mais ma Pauline, celle qui m'a accompagnée jusqu'à mes 10 ans, était fragile. Ce n'est pas un secret. À la fin de sa vie, il lui était devenu difficile de communiquer. Quelque part entre le cerveau et la bouche, les mots refusaient d'avancer. Quand il finissait par arriver, il se faisait entendre dans le désordre quand il ne s'était pas fait remplacer par d'autres mots qui se fichaient carrément du contexte. Les traîtres. Les mots qu'elle avait chantés, écrits ou scandés se moquaient bien maintenant de bousiller ses conversations des plus simples aux plus importantes. Elle voulait dire « je vais à l'épicerie », mais à la place elle disait « je cherche la voiture ». Elle voulait dire « prends-moi dans tes bras », mais c'est « pamplemousse » qui sortait. Elle voulait dire « je n'en peux plus, j'ai peur », mais elle n'en était pas capable. J'ai appris ce qu'était l'aphasie avant de maîtriser mes tables de multiplication. Le hasard, la vie ou quelque chose comme ça fait en sorte que 20 ans, presque jour pour jour, après que ma grand-mère a décidé qu'elle en avait assez, son premier arrière-petit-enfant s'apprête à naître. Dans les dernières semaines, alors que je m'arrondissais tranquillement, je me suis beaucoup interrogée sur la transmission, sur ce que mon enfant allait conserver de Pauline, mais aussi sur ce qu'elle pouvait encore dire à ma génération et au public. Que signifie Pauline Julien aujourd'hui? À mes yeux, son histoire est une histoire d'insoumission. Avoir des convictions signifiait pour Pauline refuser de chanter pour la reine Élisabeth II lors de sa visite au Canada en 1964. Interrompre un sommet international en 1969 pour crier « Vive le Québec libre! » Puis, en octobre 1970, être emprisonnée pendant une semaine en vertu de la loi sur les mesures de guerre. Se tenir debout, toujours. Pauline peut encore montrer aujourd'hui ce que veut dire l'engagement, quelle que soit la cause. Si elle avait une fleur de lys à la place du cœur, Pauline ne s'est jamais laissée séduire par le radicalisme. Tout au long de sa carrière d'artiste et de militante, elle s'est régulièrement adressée à la communauté anglophone pour expliquer, dans une langue qu'elle ne maîtrisait pas tout à fait, ses amours politiques. Ne pas rompre le dialogue, continuer d'échanger, malgré des opinions aux antipodes. Voilà un autre des enseignements bien utiles par les temps qui courent, il me semble, que l'on pourrait tirer de ma grand-mère. Mais Pauline se permettait d'être furieusement imparfaite. Elle pouvait avoir des certitudes tout en étant criblée de doutes. Elle pouvait aimer un homme, son Gérald, pendant plus de 30 ans, tout en partageant des moments avec d'autres. Elle pouvait partir en France avec un pot de Cheese Whiz dans sa valise. Et elle a vécu aussi intensément que possible avant de décider que c'était terminé, de tirer le rideau sans un dernier salut. C'est tout ça, Pauline. Une farouche indépendance d'esprit, un paradoxe et une âme qui tendait vers la tendresse, bien sûr. Alors qu'importe si je n'ai pas ses yeux, ni ses cheveux, ni sa voix. J'ai ce bagage avec moi, ce legs de liberté et de passion. Tous ceux qui se la rappelleront ou qui auront envie de la découvrir cet automne au cinéma, en musique ou au théâtre, porteront aussi ce bagage. À nous de décider. Pauline Julien, intime et politique. Alors, ce sera en salle le 21 septembre, c'est vendredi prochain. Et sur scène, la saison 2018-2019 comprend entre autres 3 pièces et un spectacle musical rendant hommage à la vie, l'œuvre et l'histoire d'amour de Pauline Julien et Gérald Godin. Artiste et citoyen engagé, le couple a marqué l'histoire moderne du Québec en marge de la Révolution tranquille. Leur destin, pas tranquille du tout, inspire une nouvelle génération de créateurs québécois. Alors, au théâtre, je cherche une maison qui vous ressemble. Cette pièce à l'affiche depuis quelques jours est signée Marie-Christine Lehu et mise en scène par Benoît Vermeulen. Gabriel Robichaud joue Gérald et Catherine Allard, Pauline, mais aussi les acteurs qui jouent ces personnages. Catherine Allard travaille depuis 6 ans sur ce projet qui entremêle chansons, poésie et vidéos et dialogue entre les époques. C'est à la salle Fred Barry jusqu'au 29 septembre. J'ai vu ce spectacle cette semaine. C'est un spectacle qui contient beaucoup de moments très, très émouvants. Je ne te savais pas poète. André-Luc Tessier met en scène ce texte adapté de la correspondance entre Pauline Julien et Gérald Godin et des morceaux choisis dans le recueil « La renarde et le mal peigné » avec Rosanne Derry et Laurie Huard. C'est une production de la compagnie Tableau Noir qui met en parallèle la vie du couple avec l'ébullition du Québec dans les années 60 et 70. C'est au studio Espace Libre du 4 au 22 décembre et colonisé au féminin. Après « J'accuse et les barbelés », Annick Lefebvre, une auteure qui ne laisse personne indifférent, se penche à son tour sur la vie et l'héritage du couple mythique. La mise en scène dans sa nouvelle pièce a été confiée à René-Richard Cyr pour jouer les personnages de Gérald Godin et Pauline Julien, deux interprètes de haut vol, Macha Limonchik et Benoît Méguénis, au théâtre d'aujourd'hui, au centre du théâtre d'aujourd'hui, du 22 janvier au 16 février 2019. Et puis en musique, La Renarde, sur les traces de Pauline Julien, spectacle hommage qui a été créé en juin dernier au Francofolie de Montréal, monté par Inès Talby et produit par Spectra Musique. La Renarde fera l'objet d'une tournée au Québec en février et mars 2019. L'artiste multidisciplinaire a réuni des chanteuses et comédiennes de toutes les générations, de Claude Pelgag à France Castel en passant par Émilie Bibeau, Fanny Blum et Louise Latraverse. Marc-André Lucier dans la presse, à l'heure où l'on évoque souvent la crise de diffusion du cinéma d'auteur, voilà qu'une nouvelle salle lui étant entièrement consacrée ouvrira ses portes à la fin du mois. Situé en plein cœur du Carré Doré, le cinéma du musée sera aussi le seul cinéma de l'ouest de la ville à offrir une programmation entièrement francophone, entièrement accessible au public francophone. Les cinéphiles et amateurs d'art connaissent déjà l'auditorium Maxwell Cumming du Musée des beaux-arts, le MBAM, pour avoir ponctuellement assisté à des projections de films organisées dans le cadre de différents festivals. L'endroit a fait l'objet de très importantes rénovations afin d'être transformé en vraie salle de cinéma. Et à compter du 25 septembre, le cinéma du musée sera ouvert aux cinéphiles tous les jours au gré d'une programmation régulière, laquelle sera établie par l'équipe du cinéma Beaubien. Et étant doté, d'un bel escalier menant à la salle, l'endroit sera aussi l'hôte de premières de films et accueillera des festivals. Cela dit, la vocation du cinéma du musée sera de proposer des films en séance régulière. Pour leur interprétation du touchant couple du vieux et de la vieille dans les chaises d'Eugène Ionesco, les comédiens chevronnés Gilles Renaud et Monique Miller ont chacun reçu un prix Gaston Roux hier soir au Théâtre du Nouveau Monde. La récompense est remise chaque année par les abonnés du TNM qui votent parmi les productions de la saison précédente. La mise en scène de René-Richard Cyr ainsi que la musique de François Dompierre pour la comédie musicale de Michel Tremblay « Demain matin, Montréal matin » ont aussi été récompensées. De plus, le TNM a remis la bourse Équité et diversité à l'acteur d'origine caribéenne Philippe Racine et la bourse à la création Jean-Louis Roux, conjointement à Fanny Britt et Alexia Burger ou Berger. Les deux femmes seront en résidence d'écriture au TNM pour une pièce qui sera créée au printemps 2020. Et l'œuvre de David Hockney, Portrait of An artist pool with two figures sera mise aux enchères par Christie's en novembre pour la coquette somme de 80 millions de dollars US si elle est cédée à ce prix. Elle deviendra la toile la plus chère jamais adjugée d'un artiste vivant.
Gang était là, ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà,
c'est une latine, et Manhattan, de la résine.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo de te quiero mucho et de cafard. Une sauce mela, c'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa,
c'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet des hauts en bas qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. Rebaleto. Garde serré contre mon cœur, malgré la mort qui rôde. Chuchote en quelque chose à son chauffeur. Y'en a marre des palaces. Elle s'en va faire des passes pour le panard. Je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir.
C'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet.
C'est une frangine portoricaine qui vit dans le Spanish Harlem. Les reins cambrés au bon endroit. Elle est superbe, c'est la salsa. We'll be right back.
Bernard Lavillier, La Salsa.
Oui, Maurice, je suis d'accord avec vous et j'imagine que les auditeurs, auditrices aussi, puisque cette chanson qui a plusieurs années dans le corps, si je puis dire,
25-30 ans,
a très bien vieilli. Comme nous, finalement. Alors, allons-y donc avec la dernière portion de l'émission. Maxime Bernier lance le Parti populaire du Canada, la nouvelle formation politique de droite que veut diriger le député de Beauce, Maxime Bernier, aux prochaines élections, s'appellera le Parti populaire du Canada. Trois semaines après avoir claqué la porte du Parti conservateur, M. Bernier jette donc les premières bases d'un parti politique qui devrait aussi subir ses premiers tests durant les élections partielles à venir sur la scène fédérale, notamment Outremont au Québec et Leeds, Grenville, Thousand Islands en Ontario. Pourquoi ce nom? Parce qu'il est temps que le gouvernement accorde la priorité aux Canadiens ordinaires lorsqu'ils prennent des décisions et établissent des politiques. Il est temps de remettre le pouvoir entre les mains des gens, a dit M. Bernier au cours d'une conférence de presse ce matin. Quelques suggestions de sortie, puisque c'est le week-end qui est à nos portes. Agenda du week-end, c'est dans le Journal de Montréal. Construisons Monumental. Après Marseille, Moscou et Philadelphie, Montréal accueille l'artiste Olivier Grosse-Tête, qui a imaginé pour nous une reproduction éphémère du pont Jacques-Cartier en grand format. C'est une structure en carton de 30 pieds de haut et de 115 pieds de long qui sera construite à l'aide des participants. Il y a aussi des ateliers gratuits auxquels on s'inscrit en allant sur le site des escales improbables. C'est à la place des festivals. Demain, on construit à partir de 10 heures le matin. Dimanche, on déconstruit à 16 heures. L'activité est gratuite. Aussi, comme on prévoit un retour de l'été en fin de semaine, c'est déjà commencé, une petite balade sur le boulevard Saint-Laurent qui sera fermée à la circulation pourra nous détendre. Des jeux, il y a des ventes, des combats de sumo, du maquillage pour les enfants. Un immense jeu gonflable près de la rue Prince-Arthur, de la rue Saint-Arthur. La rue Saint-Arthur? Ça doit être la rue Prince-Arthur. Oui, parce qu'on parle de Saint-Laurent, puis on a, j'imagine, fait un petit lapsus. C'est sur le boulevard Saint-Laurent et c'est jusqu'à dimanche, en journée et en soirée. C'est gratuit. On aime ça. Dans le cadre de ce festival, donc, qui s'appelle maintenant Quartier Danse, qui présente plusieurs spectacles en ville, on peut assister à des représentations extérieures. C'est aussi à la place des festivals comme Construisons Monumental. À 12h30, deux spectacles de la Atacalari Dance Company, gratuit. Maintenant, au Jardin de Lumière, le Jardin de la Chine, le Jardin japonais et le Jardin des Premières Nations proposent encore une fois cet automne leurs magnifiques œuvres lumineuses. On doit prévoir une heure fixe pour la visite parce qu'il y avait trop de monde. Il est donc préférable de réserver en ligne pour pouvoir justement bien profiter de l'expérience, de la visite pour faire de belles photos. Soyez sur place à La Brunante, c'est au Jardin botanique jusqu'au 31 octobre, du dimanche au jeudi de 19h à 21h, le vendredi et le samedi de 19h à 22h. Et pour les tarifs, vous pouvez consulter l'espace Espace pour la vie de Montréal. Et finalement, jusqu'à dimanche, le festival You'll Eat. En anglais, donc, YUL, c'est un langage d'aéroport, ça, qui veut dire quoi, Canada?
J'ai oublié, non.
You eat pour manger, bat son plein à Montréal. Je pense que c'est Montréal, mais il faudrait vérifier, Maurice, est-ce que vous avez le temps de faire ça pour nous? À la place de la paix, Saint-Laurent, tout près de René-Lévesque, le marché Red Pat propose plusieurs activités sur la thématique du bien boire et du bien manger. C'est aujourd'hui, ça se poursuit donc à partir de 17h jusqu'à 21h. Demain, c'est de 11h à 21h. Dimanche, de 11h à 17h. Et à Laval, c'est au Centropolis que les éco-gourmands vont se rendre samedi de 9h à 16h. Et tout juste à côté de cet agenda, on peut lire que Piaf Symphonique s'offrira un troisième soir en avril. Les classiques de la Môme, revisités par l'Orchestre symphonique de Montréal, pourront être entendus 3 soirs plutôt que 2 au printemps prochain. Déjà attendu les 24 et 25 avril, le chef Simon Leclerc et ses musiciens ont aussi rendez-vous avec la maison publique, le 26 avril à la Maison symphonique pour présenter Piaf symphonique, une mise en scène de Yann Perrault qui prendra aussi part à l'œuvre sur scène. L'OSM accompagnera Florence K, Marie-Thérèse Fortin, Martha Wainwright, Pierre Flynn, Quartum et Sylvie Moreau. Belle brochette, comme dirait l'autre, se greffera à eux un chœur. Nouveauté de la série OSM Pop, Piaf symphonique pourra piger dans le vaste répertoire d'Édith Piaf, comprenant les classiques « Non, je ne regrette rien », « Hymne à l'amour » et « La vie en rose », il est possible de se procurer des billets pour le spectacle dès maintenant, osm.ca. Maurice, avez-vous trouvé?
Oui, mais je n'ai pas trouvé la définition, mais UL, c'est pour déterminer l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau
bon,
à Dorval.
Bon, je me doutais que c'était
oui,
cela.
Mais... Il y a un long article, là, je pourrais pas vous dire le YUL, la définition des lettres.
Un autre jour peut-être.
On va lire.
Ça nous donne quand même une bonne idée. Le divorce entre les sénateurs d'Ottawa et Eric Carlson a enfin été consommé hier. Après des mois de rumeurs, le capitaine des sénateurs a été échangé aux Sharks de San Jose lors de la journée d'ouverture du camp d'entraînement de l'équipe, comme Danny Hitley l'avait été il y a 9 ans, presque jour pour jour. L'attaquant québécois des mineurs, Francis Perron, va l'accompagner alors qu'en retour, les sénateurs obtiennent le centre Chris Tierney, le défenseur Dylan DiMelo, les espoirs Josh Norris et Rudolph Balcer, 2 attaquants ainsi qu'un choix de première ronde en 2019 ou 2020. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Un grand merci d'avoir été à l'écoute de cette émission du vendredi 14 septembre sur les ondes de Canal M. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Bon week-end tout le monde et à lundi.